Bonjour à chacun. Nous allons bientôt célébrer des mariages à notre église. Et parmi les futurs mariés, certains sont des divorcés. Alors pour les uns, cela ne change rien. Divorcés ou non, nous nous réjouissons pour les mariés. Pour d'autres, en revanche, cela peut susciter des interrogations. Parce que dans certaines églises, dans certaines circonstances, les mariages des divorcés ne sont pas toujours reçus avec joie. La célébration du mariage est même parfois refusée. Voilà pourquoi ce matin, nous chercherons à répondre à cette question. Selon Dieu, une personne divorcée peut-elle se remarier? Alors bien sûr, vous savez déjà que les anciens de notre église se réjouissent des mariages à venir. Donc ça vous montre déjà qu'en tout cas pour ces mariages, là-dessus, nous sommes avec les mariés, nous les entourons. Mais il est malgré tout intéressant de survoler les différentes positions qui existent sur cette question de façon à pouvoir nous forger notre propre opinion. Une opinion qui soit fondée sur la parole de Dieu, afin que nous soyons au clair avec ce que nous pratiquons. Avant d'aborder le remariage des divorcés, il nous faut très rapidement rappeler ce qu'est la volonté de Dieu pour les couples. Le mariage correspond à la volonté de Dieu pour les couples. Genèse 2:24 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un. » Les époux se détachent de leurs parents, ils s'attachent, ils se lient l'un à l'autre. Leur complémentarité est si parfaite, leur union si forte, leur cohésion si solide, qu'ils ne forment plus qu'un. Le mariage et l'unité correspondent au plan de Dieu pour les couples. Et à ma connaissance, tous ceux qui reconnaissent que la Bible fait autorité en matière de foi sont d'accord sur cette question. Mais parmi ceux qui reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu, il existe deux approches possibles pour trouver et mettre en pratique la volonté de Dieu. La première approche cherche à définir les contours de la loi. Au travers de la Bible, on cherche à établir la liste de ce que Dieu a permis ou de ce que Dieu a interdit afin de se conformer à la volonté de Dieu. La seconde approche cherche à discerner l'esprit de la loi. Au travers de la Bible, on cherche à discerner derrière la loi quelle est l'intention de Dieu, quelle est la motivation de Dieu afin de pouvoir, là aussi, se conformer à la volonté de Dieu. Ces deux approches poursuivent le même but, marcher fidèlement avec Dieu. Elles ont la même source, la Bible. Elles partagent la même conviction. La Bible est la parole infaillible de Dieu qui fait autorité. Mais ces deux approches peuvent aboutir à des positions parfois fort différentes, comme nous le verrons. Nous allons maintenant chercher à répondre à la question « Un divorcé peut-il se remarier ?» Et nous allons tout d'abord aborder les choses en adoptant l'approche de ceux qui cherchent à définir les contours de la loi. La difficulté, c'est que même parmi ceux qui ont cette approche, il n'y a pas unanimité sur cette question, mais trois positions différentes. Certains pensent que le remariage d'un divorcé est interdit. Point final. D'autres que le remariage d'un divorcé est interdit, sauf à deux conditions, s'il y a eu adultère ou si le précédent conjoint n'était pas chrétien. Et pour d'autres encore, le remariage d'un divorcé est interdit, sauf si le divorce était motivé par une raison grave. Alors je précise juste, sans rentrer dans les détails, qu'au sein de chacune de ces trois positions, certains considèrent que si l'ex-conjoint est décédé, alors le remariage devient possible, parce que la Bible autorise le remariage des veufs. Première position, le remariage d'un divorcé est interdit. Et voilà un des textes qui semble soutenir cela. Marc 10, au verset 11 et 12. Jésus leur dit, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ce qui motive ici l'interdiction du remariage, c'est que le divorcé qui se remarierait se trouverait en état d'adultère par rapport à son ex-conjoint. On a là une position très carrée. Le contour de la loi est clairement défini et se fonde sur la Bible. Mais cette position ne peut pas être retenue car elle ne prend pas en compte d'autres textes de la Bible qui contredisent cette interdiction formelle du remariage. Et la deuxième position que nous allons voir prend justement en compte ces textes. Pour la deuxième position, le remariage d'un divorcé est interdit à l'exception de deux cas. La première de ces exceptions, c'est que si jamais il y a eu adultère dans le mariage, alors ils peuvent se remarier. Matthieu 5, 31, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ce texte est alors compris ainsi. Même s'ils ont divorcé officiellement, les deux ex-conjoints sont toujours considérés comme étant mariés aux yeux de Dieu. La seule chose qui pourrait briser les liens du mariage aux yeux de Dieu serait qu'il y ait eu des relations sexuelles avec une autre personne que son premier conjoint. Cette compréhension pose problème. Pas plus que la Bible ne considère les relations sexuelles comme l'acte fondateur du mariage, le reste de l'Écriture ne considère pas que des relations sexuelles avec une autre personne rompent les liens du mariage. La Bible n'appelle pas cela un divorce, la Bible appelle cela un adultère. La seconde de ces exceptions, pour ceux qui sont partisans de cette compréhension, c'est que si jamais un conjoint non chrétien demande le divorce, alors le remariage est possible. Il s'appuie sur cela, sur le texte de 1 Corinthiens 7,15. Si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur, donc le chrétien, n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Ce texte est compris ainsi, si un chrétien est marié à un non-chrétien et que ce dernier veut divorcer, alors le chrétien ne serait pas lié, et puisqu'il ne serait pas lié, donc la conclusion logique de cette argumentation, alors il peut se remarier. Mais là aussi, cette nouvelle clause d'exception pose un problème. Déjà, pour les tenants de cette lecture, elle invalide la première exception qui considère que seul l'adultère rompt les liens du mariage aux yeux de Dieu. Ici, il n'est pas question d'adultère et pourtant, Dieu ne les considère plus comme liés. Mais surtout, cette exception fait du mariage avec un non-chrétien un sous-mariage. Dieu exhorte les chrétiens à ne pas épouser un non-chrétien, ça c'est vrai. Mais jamais Dieu ne considère qu'un chrétien est moins lié à son conjoint s'il n'est pas converti. Selon Dieu, un chrétien est lié à son conjoint, que ce dernier soit chrétien ou qu'il ne le soit pas. Pour ce qui est du remariage des divorcés, l'approche qui cherche à définir les contours de la loi montre également ses limites et ses faiblesses. D'abord, cette approche conduit à des incohérences. Une pauvre femme battue qui a divorcé pour sauver sa vie ou pour protéger ses enfants aurait l'interdiction de se remarier. Par contre, un homme qui vivait en concubinage, qui quitte sa petite amie pour épouser sa copine, qui est beaucoup plus jolie qu'elle, alors lui, il pourrait se remarier. Où est la cohérence de Dieu dans tout cela? Cette approche peut conduire également à un légalisme qui conduit au péché, qui débouche sur le péché. Un homme divorcé ne peut se remarier, sauf si lui ou si son ex-femme a eu des relations sexuelles avec une autre personne. Alors, si cet homme veut vraiment se remarier, que lui reste-t-il à faire? Il n'a qu'à avoir des relations sexuelles avec celle qu'il veut épouser ou avec une autre. Alors, bien sûr, aux yeux de Dieu, ce serait un péché. Mais selon les tenants de cette position, les liens du mariage seraient brisés malgré tout et il aurait enfin le droit de se remarier. Et sachant que Dieu pardonnerait son adultère, alors il n'aurait plus de problème. En revanche, si ce même homme n'avait pas de relation sexuelle hors mariage, celui-ci n'aurait pas le droit de se remarier. Peut-on imaginer que Dieu récompense ainsi le péché? Dieu ne peut pas mettre en place une loi qui récompense le péché. Alors, parmi ceux qui cherchent à définir les contours de la loi, il existe une troisième et dernière position. Elle considère que le remariage des divorcés est interdit, sauf si de graves raisons ont motivé le divorce. On prend les deux mêmes exceptions que précédemment, mais à partir de ces deux exceptions, on en déduit un principe. Le principe que l'on déduit, c'est que le remariage est possible si jamais le divorce a été motivé par un grave manquement aux obligations du mariage. Nous avons là un cadre plus large, mais également un cadre plus flou. À partir de quand considère-t-on que la raison est suffisamment grave pour justifier le divorce? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Et qui va estimer si les raisons ont été suffisamment graves pour permettre le remariage? Le divorcé lui-même? Celui qui a demandé le divorce estimera toujours qu'il a eu des raisons suffisamment graves pour le faire. Au contraire, celui qui s'oppose au divorce considérera que ses raisons étaient insuffisantes. Alors qui d'autre va l'estimer? Le pasteur? Les anciens? On va faire voter l'Église? Cette position n'est pas facile à mettre en œuvre, en tout cas d'une manière qui soit véritablement juste. Mais surtout, cette position manque de fondement biblique. Des deux exceptions, on déduit le principe que le remariage est possible si le divorce est motivé par un grave manquement aux obligations du mariage. Alors pour l'adultère, d'accord, c'est un grave manquement. Mais en quoi le fait que le conjoint non chrétien demande le divorce est considéré comme un manquement grave? Le texte biblique ne mentionne pas de motif grave. Et pour soutenir le principe du motif grave, il faut ici supposer que le non-chrétien empêchait son conjoint chrétien de vivre sa foi. Mais la Bible ne dit pas ça. On ne peut pas définir le contour de la loi de Dieu en se fondant sur les silences de la Bible. Nous venons de voir trois positions défendues par ceux qui espèrent, grâce à la Bible, définir les contours de la loi. Le remariage des divorcés est toujours interdit. Le remariage des divorcés est interdit sauf s'il y a eu adultère ou sauf si c'est le conjoint non chrétien qui a demandé le divorce. Le remariage des divorcés est interdit sauf s'il y a eu un manquement grave aux obligations du divorce. Ces trois positions sont largement répandues chez les évangéliques. Mais malgré toute l'estime que je porte à mes frères et sœurs, je ne pense pas que nous puissions les retenir. Elles présentent toutes des limites et des difficultés non résolues, et surtout, elles ne prennent pas en compte l'ensemble de la Bible. Certains textes que nous allons voir bientôt sont mis de côté. Et une dernière remarque, dans son principe même, l'approche qui sert à définir les contours de la loi n'est plus celle que Dieu attend de nous. Selon Romains 6, 14, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et heureusement pour nous, car si nous étions encore sous la loi, aucun de nous ici présents n'aurait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et en 2 Corinthiens 3, 6, il est écrit « Nous sommes les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, l'Esprit lui communique la vie. » La loi est-elle mauvaise? Bien sûr que non. 1 Timothée 1, 8 nous dit « Nous savons que la loi est bonne, mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. » Et c'est justement afin d'utiliser la loi en accord avec son but, d'autres traductions disent « pour utiliser la loi de façon légitime » que nous allons maintenant à chercher à répondre à cette question. Selon Dieu, une personne divorcée peut-elle se remarier? Mais nous allons ici utiliser l'approche qui sert à discerner l'esprit de la loi. L'approche qui sert à discerner l'esprit de la loi, qui cherche à discerner l'intention et les motivations de Dieu, nécessite une approche plus globale de la Bible. Parce que si on pense que la parole de Dieu est le reflet de la volonté de Dieu, alors tous les textes, tous les enseignements de la Bible doivent s'accorder et être cohérents entre eux. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous allons essentiellement parcourir trois textes ce matin. Matthieu chapitre 5. Certains pensent que Jésus autorise le remariage seulement s'il y a eu adultère. Matthieu 5, 32, c'est Jésus qui parle. Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Dans une approche globale, il est intéressant de voir si l'enseignement de Jésus sur le remariage est en accord avec l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus enseigne, dans quel esprit le fait-il? La loi de Moïse, de son côté, montrait les normes minimales que le peuple devait atteindre. Mais Jésus, lui, au travers de son enseignement, montre le niveau de perfection que devaient atteindre tous ceux qui cherchent à être trouvés justes aux yeux de Dieu. Dans le contexte immédiat du passage que nous venons de lire, Jésus explique cela à ses disciples. Au verset 20, « En effet, je vous le dis, si votre justice, celle qui se repose sur la loi, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et Jésus développe le niveau d'exigence qu'il faudrait avoir pour être juste. Verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ainsi de suite. Vous avez appris, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, tendez la joue droite, ne résistez pas aux méchants. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Jésus n'a jamais enseigné que l'on pouvait être moins exigeant que la loi. Au contraire, par son enseignement, Jésus a toujours exhorté ceux qui l'écoutaient à placer la barre plus haut que la loi. Et Jésus conclut le passage où il parle du divorce par ceci, au verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est la perfection que Jésus enseigne. Quel est l'idéal de Dieu pour le couple? C'est le mariage, pas le divorce. Si Jésus autorisait un époux victime de l'adultère de son conjoint à divorcer, ce serait la seule fois de tout son enseignement où Jésus encouragerait quelqu'un à ne pas chercher à vivre l'idéal de Dieu. Dire que Jésus autorise ici le divorce et le remariage en cas d'adultère ne s'accorde pas avec l'esprit de l'enseignement de Jésus en général. Pour discerner l'esprit de la loi, il faut toujours chercher à savoir quelle était l'intention de Dieu derrière cette loi. Que voulait-il faire comprendre à ceux à qui il s'adressait? Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles en Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Alors, dans quel contexte Jésus apporte-t-il son enseignement sur le divorce? Et Matthieu 19 va nous éclairer sur cette question. Au verset 3, les pharisiens l'abordèrent, donc abordèrent Jésus, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Les pharisiens, ceux qui parmi tous les juifs étaient les plus scrupuleux sur le respect de la loi, viennent trouver Jésus. Et ils ne viennent pas trouver Jésus parce qu'ils recherchent la volonté de Dieu, mais pour lui tendre un piège. Ce piège, ils pensent l'avoir trouvé en obligeant Jésus à répondre à cette question. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Alors, des textes que nous possédons sur le judaïsme de cette époque nous éclairent et nous montrent qu'à l'époque de Jésus, à l'époque même où il vivait, il y avait un débat qui opposait les rabbins sur cette question. Et le débat était de savoir comment interpréter la loi de Moïse. Certains pensaient que pour divorcer de sa femme, il fallait qu'elle ait fait quelque chose de grave. D'autres pensaient que n'importe quel motif de mécontentement du mari était suffisant. Et les pharisiens espèrent que Jésus va se positionner et qu'il va dire si oui ou non, n'importe quelle raison est suffisante pour divorcer. Mais la réponse de Jésus n'est pas celle qu'ils attendaient. Jésus montre à ses interlocuteurs que leur question même montre qu'ils ne cherchent pas à suivre la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas le divorce, c'est le mariage. Verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ceux qui questionnent Jésus veulent savoir quel est le niveau de permission que Dieu leur accorde pour divorcer de leur femme, une permission totale pour n'importe quel motif ou une permission limitée. Mais Jésus leur rappelle que Dieu ne leur accorde aucune permission, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mis en accusation, les pharisiens espèrent s'en sortir en se retranchant derrière la loi. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Et la réponse de Jésus tombe. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. C'est à cause de la dureté du cœur d'hommes comme eux que Moïse a permis le divorce. Et sans cette dureté de cœur, le divorce n'aurait pas figuré dans la loi. Et Jésus, en accord avec l'enseignement, enfin avec l'ensemble de son enseignement, montre ultimement à quoi revient le divorce aux yeux de Dieu. Verset 9, « Moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Jésus montre que si ces hommes divorcent de leur femme par intérêt personnel, aux yeux de Dieu, c'est comme s'ils commettaient un adultère. Ils ont utilisé le cadre légal du divorce pour changer de femme. Leur motivation était de quitter leur femme pour en épouser une autre. Et même s'ils utilisent le cadre officiel du divorce, cet abandon de leur première épouse revient pour Dieu à de l'adultère. À moins, bien sûr, que ce soit leur épouse qui était infidèle. Et dans ce cas-là, c'est elle qui porterait la responsabilité de l'adultère. Jésus ne limite pas le divorce, pas plus qu'il ne l'autorise. Jésus rappelle que ceux qui veulent marcher avec Dieu, que pour cela, l'amour, la fidélité et l'engagement correspondaient au projet de Dieu pour le couple. Et le projet de Dieu est tellement élevé que même les disciples de Jésus ne peuvent s'empêcher de dire au verset 20, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Le divorce n'est pas dans le plan initial de Dieu. Au commencement, ce n'était pas le cas. Et pourtant, la loi de Dieu traite et légifère du divorce et du remariage. Et voilà un texte qui est laissé de côté par ceux qui soutiennent que le remariage des divorcés n'est pas possible, ou alors est restreint à quelques exceptions. Ce texte est pourtant le seul qui traite spécifiquement du divorce et du remariage. Et je vous invite maintenant à ouvrir vos livres dans le au Deutéronome, au chapitre 24. Deutéronome, chapitre 24. Versets 1 à 4. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a prise pour femme vienne à mourir. Alors, le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel. Et tu ne te chargeras pas d'un péché dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Quel est l'esprit de la loi qui encadre le divorce et le remariage? Que nous révèle ce texte sur la volonté de Dieu par rapport au divorce et au remariage? La première chose que l'on peut remarquer, c'est que la loi sur le divorce et sur le remariage n'a pas été donnée comme un moyen de sortir du mariage en cas d'adultère ou d'un motif grave. Il y a déjà une loi qui traite de l'adultère. Et la loi dit que la sanction de l'adultère, ce n'est pas le divorce, mais c'est la mort. La loi qui encadre le divorce ne mentionne pas non plus qu'un grave manquement au mariage doit être la cause du divorce. Selon les traductions au verset 1, l'homme divorce de sa femme du fait qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, ou bien autre traduction, elle cesse de lui plaire car il a quelque chose à lui reprocher. Faut-il voir en cela que Dieu approuve que l'homme quitte sa femme dès qu'elle ne lui plaît plus? C'est ce que considéraient les hommes qui sont venus trouver Jésus. Ils pensaient que puisque la loi de Moïse envisageait le divorce, cela leur donnait l'autorisation de divorcer de leur femme pour n'importe quelle raison. Ils avaient une approche légaliste de la loi. Une approche globale de l'enseignement biblique leur aurait montré qu'en aucun cas Dieu ne leur donnait le droit de divorcer de leur épouse. Voici comment Dieu considère ceux qui utilisent le divorce comme un droit, comme une autorisation de trahir leur conjoint, en Malachie 2,14. L'Éternel a été le témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, et pourtant elle était ta compagne, et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne ne fait cela avec un reste de bon sens. Veillez sur votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Les termes sont extrêmement forts. Dieu déteste le divorce parce que le divorce correspond à la trahison, à la rupture de l'alliance conclue entre les deux époux. Dieu déteste le divorce, mais Dieu ne déteste pas les divorcés. Dieu déteste le divorce parce que le divorce est toujours la conséquence d'un péché. Cela ne signifie pas que les deux conjoints étaient pécheurs. La Bible ne dit pas non plus que ce soit le divorce en lui-même qui soit un péché. Sinon, le divorce n'appartiendrait pas à la loi de Dieu. Mais cela signifie que le péché est toujours à l'origine du divorce ou alors de ce qui a provoqué le divorce. Le divorce est toujours la conséquence de la dureté du cœur. Dieu déteste le divorce, pourtant Dieu a incorporé le divorce dans sa loi et Jésus en donne la raison en Matthieu 19 au verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. La loi ne favorise pas le divorce, mais la loi part de la triste constatation que le péché existe et qu'en raison de la dureté du cœur de l'homme, les hommes trahissaient l'alliance par laquelle ils s'étaient liés à leur femme. Ainsi Dieu a permis et encadré la triste pratique du divorce. En raison de la dureté du cœur de l'homme, au travers de Moïse, Dieu a donné une loi qui encadre le divorce et le remariage, et voilà ce qui ressort de cette loi. La première chose, c'est que la loi n'a pas été donnée pour faciliter le divorce de l'homme. Au contraire, la loi complique le divorce, car il exige qu'il prenne une certaine forme, et surtout, la loi a été donnée en faveur de la femme qui est répudiée par son mari. En effet, dans la culture de l'époque, l'homme n'a pas besoin de loi pour se remarier. La polygamie était malheureusement dans les mœurs de cette époque. Un homme qui rejette son épouse peut très bien en prendre une autre. Il peut se remarier et il ne sera pas considéré comme adultère. Mais l'inverse n'était pas vrai. Si jamais une femme rejetée par son mari se remariait, alors elle serait accusée d'adultère. Elle serait alors lapidée, ainsi que l'homme qui aurait épousé cette femme. Dieu encadre le divorce et exige que lorsque l'homme rejette, répudie sa femme, il lui remette une lettre, un document officiel qui permet à cette femme de prouver qu'elle est divorcée. Et grâce à ce document, elle est en mesure de se remarier. Le document n'est pas pour l'homme, il n'en a pas besoin. Il est pour la pauvre femme qui a été rejetée par son mari. La lettre de divorce est le moyen par lequel Dieu intervient en faveur de cette femme victime de la dureté du cœur de son mari. Au travers de cette loi, Dieu permet à cette femme, si jamais elle en a l'occasion, de reconstruire sa vie et de se remarier avec un homme qui l'aimerait. Au travers de la loi sur le divorce, Dieu ne fait pas que permettre à la femme de refaire sa vie, Dieu protège également la femme de son ex-mari dont le cœur est si dur. Si jamais la femme se retrouve à nouveau seule, soit parce qu'elle a été une nouvelle fois répudiée, soit parce qu'elle est devenue veuve, son premier mari ne pourra jamais prétendre avoir des droits sur son ex-épouse. Deutéronome 24:4. Le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel. La femme est considérée comme impure vis-à-vis de son ex-mari. Ce n'est pas la femme qui est impure en elle-même. La preuve, c'est qu'elle peut se remarier avec un autre homme si jamais elle le souhaite. Mais pour son ex-mari et pour lui seulement, son ex-femme est considérée comme impure. Cela signifie que si jamais cet homme voulait faire valoir une quelconque autorité sur elle, s'il la reprenait, il serait lui-même considéré comme impur, et donc, selon la loi, il se verrait interdire toute vie sociale et toute vie religieuse. La loi sur le divorce interdit à l'homme de considérer que la femme est un objet qu'il peut jeter quand il veut et reprendre quand il a changé d'avis. L'esprit de la loi du divorce est donc de restreindre la liberté du mari qui répudie sa femme et de soulager, de protéger et de venir en aide à la femme qui est trahie par son époux. Alors une petite parenthèse, la plupart des textes que nous avons lus semblent considérer que dans le divorce, les hommes sont toujours les coupables et la femme trahie par l'époux, toujours les victimes. Si les hommes sont souvent montré du doigt, c'est parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, seuls les hommes pouvaient être à l'initiative du divorce. C'était impossible qu'une femme répudie son mari. Mais à l'époque de Jésus, la culture romaine et grecque ont fait bouger les choses et le divorce demandé par les femmes fait son apparition, même dans le milieu juif. Et Jésus, par son enseignement, montre qu'aux yeux de Dieu, celui qui porte la culpabilité du divorce n'est pas toujours l'homme seulement, c'est celui qui trahit son alliance, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Marc 10:11, Jésus leur dit « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Dans l'esprit de Jésus, il y a réciprocité. L'esprit de la loi sur le divorce n'est donc pas pour venir en aide aux femmes seulement, mais bien pour venir en aide à tous ceux qui sont les victimes du divorce, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. On entend parfois dire que même si un homme et une femme ont divorcé légalement, aux yeux de Dieu, ils sont toujours mariés et donc qu'ils ne peuvent pas se remarier sans commettre d'adultère. Et on cite pour cela Matthieu 19:6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce verset ne dit pas qu'il est impossible de séparer ce que Dieu a uni, mais qu'il n'est pas permis de le faire. Souvenez-vous du contexte que nous avons vu tout à l'heure dans lequel Jésus a enseigné. Et la preuve, c'est que la Bible considère que même si le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu initialement, même si le divorce a été motivé par la dureté du cœur de l'homme ou de la femme, même si la raison du divorce est seulement que le conjoint ne trouve plus grâce aux yeux de l'autre, eh bien, si le divorce a été prononcé, reconnu par la société, eh bien, Dieu ne considère plus que les époux sont liés l'un à l'autre. Deutéronome 24:1, il écrit pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remis, la renvoie chez lui. Elle sort de chez lui, s'en va, et peut devenir la femme d'un autre. Le remariage est possible aux yeux de Dieu. Les ex-conjoints ne sont plus liés l'un à l'autre. Nous ne devons pas considérer comme encore unis ce que Dieu lui-même reconnaît comme n'étant pas lié. Le divorce rompt les liens du mariage et les divorcés peuvent se remarier. Cela signifie-t-il que tous les divorcés peuvent se remarier? Le texte que nous venons de voir montre que si le divorce a été prononcé, Dieu ne considère plus les ex-époux comme liés et ils peuvent donc se remarier de la même manière que n'importe qui, de la même manière qu'une personne qui n'a jamais été mariée. La question ne doit donc pas être est-ce qu'un divorcé peut se remarier? La question doit être est-ce que cette personne peut se marier? Si cette personne porte une part de responsabilité dans le naufrage de son précédent mariage, si elle a péché, alors il lui faudra, avant de songer au remariage, se repentir de son péché. C'est-à-dire qu'elle devra demander pardon à Dieu et aussi prendre la ferme résolution de ne plus recommencer à pécher. Et que se passe-t-il si un chrétien demande pardon à Dieu pour son péché? Son péché est pardonné grâce au sacrifice de Jésus. Même le péché d'avoir détruit son couple, d'avoir trahi son conjoint, d'avoir eu un cœur dur peut être pardonné s'il y a repentance. Et lorsqu'un péché est pardonné, Dieu ne se souvient plus du péché. La Bible nous dit ceci en Matthieu 12:31. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Le seul péché qui ne peut pas être pardonné, ce n'est pas celui d'avoir détruit son couple, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. L'Esprit de la loi de Dieu sur le divorce et le remariage ne donne pas des droits. L'intention de Dieu n'est pas d'accorder des droits au divorce. L'intention de Dieu n'est pas non plus d'accorder un droit au remariage. L'intention de Dieu, c'est de limiter les dégâts causés par la dureté du cœur des hommes et des femmes. L'intention de Dieu, c'est de soulager et de protéger les victimes du divorce et de leur permettre de refaire leur vie. En parallèle, l'enseignement sur le pardon des péchés permet également aux coupables du divorce d'être pardonnés et de prendre un nouveau départ si jamais leur cœur a changé. La question qui était posée au départ était, selon Dieu, une personne divorcée peut-elle se remarier? Nous avons vu que les arguments qui interdisent ou limitent le remariage des divorcés ne tiennent pas, en tout cas pas en les fondant sur la Bible, si on considère l'ensemble de l'enseignement biblique. Mais nous avons également vu que la loi sur le divorce et le remariage ne donne aucun droit au divorce, ne donne aucun droit au remariage. L'ensemble de l'enseignement biblique sur le divorce, le remariage et le pardon des péchés montre que l'intention de Dieu est de minimiser les conséquences du péché et de permettre à ceux qui sont victimes, comme à ceux qui sont coupables du péché, de prendre un nouveau départ. La question ne doit donc plus être, selon Dieu, une personne divorcée peut-elle se remarier? On oublie le titre de divorcé, on oublie l'ancien mariage. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle question qu'il faut se poser est, selon Dieu, cette personne peut-elle se remarier? Cette personne a-t-elle compris la vision biblique du mariage? dans son cœur a-t-elle réellement quitté ses précédentes relations affectives? Dans son cœur a-t-elle pris la résolution de s'attacher à son conjoint? Dans son cœur est-elle prête à tout faire pour ne former plus qu'un avec son conjoint? Toute personne qui envisage de se marier doit adhérer avec la vision biblique du mariage, à savoir Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Amen.